Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
Bonjour à tous, bon réveil. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour les grandes gueules du sport, votre émission en direct le samedi et le dimanche de 9h à midi. Nous serons là, évidemment, demain. Participez à cette émission, composez le 32-16 et on vous remercie infiniment de votre fidélité tous les week-ends à cette émission. Au sommaire, aujourd'hui, nous sommes une semaine après l'affaire Pablo Longoria. Peut-elle créer un électrochoc dans le foot français? C'est la une des GG dans quelques instants. Dans une semaine, le 15 de France va disputer la finale du tournoi Destination en Irlande après avoir roulé sur l'Italie. Fabien Galthié doit-il changer une équipe qui gagne? Ce sera le bras de fer des GG à 10h et ce sera un 2 contre 2. Et puis 11h, Lewis Hamilton et Charles Leclerc, copains comme cochons avant le début de la saison, la Scuderia voit la vie en rose pour les premiers pas d'Hamilton en rouge. Croyez-vous à la merveilleuse entente entre les deux pilotes Ferrari? Ce sera la seconde des GG. Les grandes gueules du sport ce matin, je vous les présente, une grande gueule qui, comme les arbitres, on a déjà eu envie de lui crever les pneus de sa bagnole. Christophe Cessieux, salut Christophe.
Ouais, mais c'est bien que tu vas être puni pour faire ça encore une fois.
Hein. Oui, c'est pour
c'est
ça
bien que c'est moi le taulier, c'est moi qui cible, et toi tu fermes ta...
Ok. C'est pour ça que je ne fais rien. Bon. J'ai dit que j'aime.
Alors, à 10 mètres, et silence s'il vous plaît. Moi, je suis un arbitre de rugby, à 10 mètres, autrement tu prends une sanction supplémentaire.
Ah oui, d'accord.
À 10 mètres, non, recule.
Ah,
non,
mais
recule.
Ça, mais ça marche comme ça, c'est fou. Attends, je prends mon micro quand même. Ok, je me recule. Ça va, Christophe?
Pas mal.
Ouais, t'es heureux pour un nouveau week-end?
Bah, je suis heureux parce que demain, je suis pas là. Demain, je te laisse tout seul.
C'est fou, ça.
Avec tes ouailles. Non, mais non, ouais, je peux pas être là demain.
Alors, Christophe, je suis très heureux parce que la semaine prochaine, tu seras un peu avec nous, même si tu seras loin. Non, mais tu vas être en Irlande pour ce match incroyable.
Exactement. Denis et Wilfried m'acceptent chez eux. Ils m'ont trouvé un petit strapontin sur le terrain.
Très bien. Il y a un petit micro.
Il y a un petit micro.
Bon, c'est l'essentiel.
Je pars avec le petit micro.
Ça va être l'événement, évidemment, le week-end prochain, cette Irlande-France. On en parle à partir de 10h. Une grande gueule qui, comme les arbitres, son ambition n'a jamais été de remporter des trophées. Pascal Duprat. Salut, Pascal.
Salut, Jean-Christophe. Salut, les amis. Comment allez-vous?
Salut, Pascal. Ça va bien et toi, mon Pascal?
Mais oui. Écoute, merveilleux. Chaque fois que je vous retrouve, c'est parfait. Bah, vraiment.
Nous aussi, évidemment. On est très heureux de t'avoir à chaque fois. En plus, tu vois, je t'ai mis avec Christophe Cessieux encore une fois ce matin.
Ça va rouler, on va être d'accord.
C'est la team du 21e siècle, en fait.
Bah, exactement, ouais. Exactement. Ah oui. Et c'est un plaisir pour moi, Christophe, d'être ton partenaire, t'inquiète.
Ouais. J'ai la sensation que vous dites souvent ça en début d'émission, vers 9h, et après ça se transforme en Trump-Zelensky.
D'abord, je veux qu'il baisse la garde.
Oui.
C'est pour ça que je parle comme ça, gentiment. Et après,
mieux l'humilier, t'as raison.
Voilà.
Fait tel avec le taureau, tu sais, il me pique, et après, paf, le coup... Final.
Pour rester dans le thème, carton rouge direct, Christophe. C'est comme ça que ça se passera tout de suite.
Carton rouge direct.
Ok, une grande gueule qui, contrairement aux arbitres...
C'est la carotide, moi.
Oui, on va les laisser. Hein. À chaque fois, on les lance et c'est parti. Hein. Une grande gueule qui, contrairement aux arbitres, c'est une experte en communication. Sarah Pitkowski, salut Sarah.
Bonjour, messieurs. Comment allez-vous?
Tu veux pas donner quelques cours aux arbitres?
Alors,
tu t'es jamais proposé?
Non, ouais, franchement, le collège des arbitres aurait bien besoin d'un
coup
de main.
Déploie tes ailes, lance ta candidature.
Je pourrais lancer ma candidature, tu as raison.
C'est le moment, Sarah.
On a quand même besoin qu'ils nous racontent des choses, ces gens-là. Hein.
Voilà, exactement.
On va en parler dans quelques instants, évidemment, de l'arbitrage et de cette semaine polémique que nous venons de traverser. Et puis une grande gueule qui, comme les arbitres, on préfère quand même l'avoir de notre côté. Fred Weiss. Salut Fred.
Salut.
Ça va, mon Fred?
Ça va très bien.
Ouais.
Je n'aime pas les arbitres.
Pourquoi?
Par principe.
Non,
je plaisante, évidemment.
Tu te chauffais un petit peu avec les arbitres? Ça se passe comment au basket?
On se chauffe tout le temps, oui, bien sûr.
Ouais.
Dans un respect, on les insulte pas, on les pousse pas, etc. Mais on discute beaucoup, oui.
Ok,
bien. T'as jamais mis une droite à un arbitre?
Non, arrêtez de parler de violence.
Non, mais c'est bien.
Ne banalisons pas ce genre de choses.
Avec les points qu'il a, il aurait pu lui faire mal.
Mais on tape pas sur plus petit déjà.
Alors je tape personne, donc c'est ça.
c'est ce que j'allais dire.
C'est pas moi qui fais 2m20, mon cher. Bon, je suis très heureux de vous retrouver. Et puis sachez, pour vous les auditeurs, que nous avons un magnifique cadeau à vous faire gagner. Cette semaine, vous pouvez remporter vos places pour le choc PSG Liverpool. C'est mercredi prochain à 21h au Parc des Princes. Et nous vous proposons à cette occasion de vivre l'expérience RMC. Alors l'expérience RMC, c'est quoi? Avant le match, vous assistez aux émissions d'RMC. Ensuite, direction le Parc des Princes pour assister à la rencontre avec la personne de votre choix. Et enfin, vous revenez dans les coulisses de l'after pour le débrief de la rencontre. Dès que vous entendrez ceci dans cette émission. Vous aurez 5 minutes pour envoyer PSG au 7-32-16, PSG au 7-32-16, vos places. Paris Saint-Germain, Liverpool, 8e de finale aller de la Ligue des Champions, se gagne uniquement sur RMC. Allez, on va débuter avec cette citation de Paul Gauguin qui a dit un jour, la vérité ne se dégage pas de la polémique, mais des œuvres qu'on en fait.
RMC, la une des grandes gueules du sport.
Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment gérer une équipe qui n'est pas bienveillante.
Corruption !
Être un manager bienveillant ne veut pas dire que l'on doit tout accepter. Tout n'est pas tolérable.
Quelle corruption, c'est la corruption totale. Quel championnat de merde.
La première étape, c'est de faire une réunion avec toute l'équipe pour expliquer ma vision des choses en tant que manager. De dire, voilà, moi c'est ce genre d'ambiance que je veux.
Moi, en 40 ans, j'ai pas vu d'arbitrage comme ça. C'est pas pour trouver des justifications, même vaut pas des avantages. Un arbitre équitable.
La deuxième étape, c'est de discuter pendant cette réunion avec l'équipe pour que toute l'équipe puisse dire, voilà, nous, ce que l'on attend de toi. Et enfin, la troisième étape. Il y a très souvent une personne dans l'équipe, et bien souvent c'est une seule, qui va dire « Non, mais moi ça ne va pas ». Et qui va aller à l'opposé de ce que vous êtes en train d'essayer de faire.
Corruption !
Et bien cette personne, cela doit se traiter en tête à tête.
Corruption ! C'est ma
faute, c'est ma faute. Le foot français est encore sous le choc après la semaine polémique autour de l'affaire Longoria. Le président de l'OM a écopé cette semaine d'une sanction extrêmement ferme. 15 matchs après son dérapage il y a une semaine à Auxerre. Toute la semaine, les arbitres ont fait corps. Ils ont été soutenus comme rarement. La pression exercée sur eux depuis le début de la saison peut-elle encore continuer? Ou cet épisode, Pablo Longoria, va-t-il marquer un tournant dans la relation qu'entretiennent joueurs, entraîneurs, présidents, supporters et nos hommes en noir? La musique qui fout les jetons. Cette question. L'affaire Longoria peut-elle créer un électrochoc dans le foot français? Oui ou non? Christophe Cessieux.
Je pense que ça peut créer une prise de conscience.
Mais pas l'électrochoc, c'est
non,
ça?
Non.
On va pas jusque-là?
Non.
Pascal Duprat.
Davantage qu'une prise de conscience. Oui, un électrochoc.
Oui. Fred Weiss. Sarah Pitkowski.
Sur le nom.
Plutôt sur le nom. Avant de débattre, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Arnaud Valadon. Salut Arnaud.
Bonjour les GG, salut Sarah, salut à tous.
Alors
salut.
Pour une fois, en ces temps de crise, eh bien le foot français est d'accord sur un point.
Le message est unanime, nous avons besoin des arbitres. Habib Bey, le coach de Rennes, appelle à permettre aux acteurs sur le terrain, lui il parle des 22 joueurs et des 3 arbitres, à évoluer dans un climat serein.
Sans eux, nous sommes rien. C'est une réalité, nous avons besoin aujourd'hui de cette corporation-là. C'est que je parle de 25 personnes qui sont bien plus importantes que les entraîneurs, que les dirigeants. Il faut que cette collaboration et cette sérénité puissent nous permettre en fait de travailler sereinement pour nous les joueurs, mais également les arbitres qui ont besoin de cette sécurité-là, cette sérénité, pour être les arbitres qu'ils doivent être, c'est-à-dire des très bons arbitres. Ils le sont par exemple en Coupe d'Europe.
Geoffrey Kondogbia, le milieu de l'Olympique de Marseille, évoque lui le fair play que les joueurs doivent avoir, mais pas uniquement les footballeurs.
Ça fait référence à ça aussi, le fair play, c'est aussi un côté d'apaisement. Ce côté d'apaisement, ce côté d'entraide. Si on veut aider l'arbitre, c'est vrai que les joueurs peuvent le faire. Les entraîneurs, la presse, tout le monde. Tout le monde peut aider les arbitres. Et j'ai pas l'impression aujourd'hui que, aussi bien des joueurs que des autres côtés, on fasse le maximum pour les aider.
Au PSG, Luis Enrique, lui, préfère ne jamais discuter des décisions interrogées sur le sujet, mais il reconnaît aussi la vraie nature des joueurs qui aiment toujours contester.
Ma manière de penser, et c'est ce que je dis à mes joueurs, ils doivent respecter les arbitres. Peu importe les décisions, si elles sont favorables ou non. Il y a toujours quelqu'un qui n'est pas satisfait, on pense que c'est toujours contre nous. Je ne veux rien dire, cela me va de penser comme ça, cela m'évite de souffrir. Mais les joueurs, même à l'entraînement, protestent.
Enfin, Jean-Louis Gasset de Montpellier, qu'on peut qualifier de l'ancienne école, précise que s'emporter peut arriver à tout le monde.
Vous avez toujours l'impression qu'on vous désavantage, qu'on vous... Et ça fait quelquefois faire ou dire n'importe quoi. Vous êtes de mauvaise foi ou vous êtes aveuglé par des trucs. Soyons indulgents avec des gens qui disent que ça arrive.
Dans un communiqué, le SAF, le principal syndicat des arbitres, prévient une nouvelle atteinte mettant en danger un arbitre ou ses proches entraînera l'exercice immédiat du droit de retrait. Pour rappel, des pneus de voiture ont été crevés au domicile de Jérémy Stina qui a porté plainte.
Merci beaucoup Arnaud Valadon pour toutes ces précisions. On va parler justement de ce communiqué et d'imaginer si les arbitres feront grève un jour dans notre championnat. L'affaire Longoria peut-elle créer un électrochoc dans le foot français? Le 32-16, le hashtag RMC Live, l'application RMC Direct Studio. pas d'électrochoc. Prise de conscience peut-être, mais pas d'électrochoc.
Oui, mais je pense qu'il faut y aller doucement sur le sujet. Il y a une prise de conscience qui s'est faite au niveau des clubs, en tous les cas, dans les discours. Pour le moment, on a vu qu'à Marseille, on essaye d'atténuer le coup, et que dans tous les autres clubs, on nous dit ah oui, c'est un scandale. Il faut vraiment aider les arbitres. Enfin, maintenant, je demande à voir lorsque, à la sortie d'un match, ils ont eu l'impression d'être floués, qu'un pénalty n'a pas été accordé. Je demande à voir tous ces acteurs sous le feu de l'adrénaline, de l'émotion, comment ils vont réagir. Parce que là, c'est bien beau de dire, c'est magnifique, on a besoin de nos arbitres, jamais plus on les attaquera. On verra à l'usage, donc pour l'instant, ne nous emballons pas. L'autre chose que je voulais dire, c'est que cette prise de conscience, elle doit être générale. Elle ne doit pas concerner uniquement les clubs, les dirigeants, les joueurs. Elle doit concerner l'autre camp aussi. Parce que là, c'est bien, ils se drapent dans leur honneur qui a été bafoué. Et je les comprends. Quand tu as des insultes, quand les pneus de ta voiture sont crevés, tu as le droit de dire « je vais exercer mon droit de retrait ». Mais il faut aussi que les arbitres se regardent dans une glace et qu'ils sachent prendre des décisions de manière à ce que ça n'existe plus. Déjà, que la commission des arbitres arrête de faire de la provocation en mettant le seul arbitre dont l'OM ne voulait pas. T'étais sûr que ça allait partir en quenouille, cette histoire. Et puis, sur le terrain également, que les mecs apprennent à discuter, qu'on les autorise.
Et justement, dans ce que tu dis, Christophe, l'électrochoc, il est peut-être aussi là. C'est qu'ils vont ils vont faire plus attention aux dénominations des arbitres.
J'espère.
Tout simplement, et moi ce que je veux dire, je vais emboîter le pas, je vais aller plus loin que toi Christophe. Je pense qu'il va y avoir un électrochoc, parce que les critiques de Longoria, on les a jamais atteintes dans le football. Ça fait tellement, tellement longtemps, je crois que la dernière fois qu'on a parlé de corruption, c'était déjà l'OM, c'était Tapie. Bon, c'était juste, c'était la main de Vata, ok. Donc, mais depuis, j'ai jamais entendu un acteur du foot parler de corruption comme l'a fait Longoria. Et ça, tout le monde a été unanime dans le football. Que ce soit les présidents, les joueurs, les entraîneurs, les sympathisants, même certains supporters de l'OM ont dit que Longoria avait dépassé les bornes. Et moi, ce qui me plaît, c'est là que je me dis que les choses vont s'améliorer, c'est que tout d'un coup, je me suis rendu compte que les arbitres avaient des histoires à raconter. J'ai lu tout ce qui s'est dit cette semaine, et crois-moi, les arbitres m'ont touché, ils m'ont ému, parce que tout d'un coup, je les ai vus à visage humain. D'habitude, ils sont toujours dans leur coin, ils ne réagissent à rien, ils sont dans un mutisme total, et cette fois-ci, ils sont ouverts. Ça les a rendus comme nous, en fait. Je voudrais, non pas contredire ce qu'a dit Bey dans sa conférence de presse. Oui, le football a besoin des arbitres. Mais je voudrais dire que les arbitres ont besoin aussi des joueurs, des entraîneurs. Parce que sans joueurs, sans entraîneurs, sans match, ils arbitrent tout seuls et ils vont royalement se faire chier. Donc on a tous besoin les uns des autres. Et il faut absolument, même si le football, c'est ancestral, on contestera toujours les décisions de l'arbitre. Mais il y a des limites à ne pas dépasser. Moi, j'ai plus envie de voir des arbitres pourchasser avec des pneus crevés ou que sais-je encore, recevant des menaces de mort. Non, mais à condition qu'ils continuent à communiquer. Le nerf de la guerre pour eux, le salut, c'est la communication. Qu'ils continuent à communiquer et qu'ils arrêtent de vivre en vase clos. Un état dans l'état, stop, ça suffit.
Oui, ce que tu disais, Christophe, d'ailleurs, hein, c'est que l'électrochoc doit venir des deux côtés, absolument.
Bien sûr. Non, je pense que les arbitres doivent aujourd'hui devoir s'exprimer à la fin d'un match et pas se draper dans leur dignité en disant j'ai pris mes décisions, je suis sûr de moi. Non, il faut qu'ils aillent discuter.
Ou j'envoie un communiqué, je vais vous expliquer.
Non, pas de communiqué. Non, discussion avec les dirigeants, discussion avec les journalistes. Tu vas en zone mixte et tu te fais interroger comme tous les acteurs.
Joueurs.
Ce sont des acteurs du sport. Ils gagnent une somme conséquente pour disputer et pour exercer leur métier. Eh bien, ils doivent faire comme les autres. Ils doivent venir s'exprimer et non pas se cacher. Se cacher derrière leur sainteté d'arbitrage, tu vois, c'est comme ça que ça ira.
Poteau,
c'est
Christophe,
dans les deux sens.
Christophe.
Il faut que chacun fasse un pas vers l'autre, autrement on n'y arrivera pas.
Sinon ça ne peut pas marcher. L'affaire
et en revanche,
Longoria,
le premier qui là s'est insurgé contre les propos de Marseille et le premier qui va aller balancer sur une faute arbitrale dans le mois qui vient, là aussi, bah tu lui mets la même sanction qu'à Longoria. Parce que la peur du gendarme, ça aussi c'est quelque chose qui marche. D'ailleurs, la semaine dernière, le seul qui ne se soit pas exprimé après l'affaire de ce match, eh bien c'est Benatia. Benatia, il en a pris plein le museau à deux reprises, mais maintenant c'est museau justement. Oui, et on l'entend plus.
L'affaire Longoria peut-elle créer un électrochoc dans le foot français? C'est notre question. Sarah Pitkowski.
Alors, je crois pas l'électrochoc parce qu'en fait, la problématique du corps arbitral et ce mutisme dans lequel ils sont depuis toujours, ne va pas bouger tout simplement parce que si le fond de l'affaire est totalement condamnable, en fait, les problématiques d'arbitrage, les attentes de communication, eh bien, elles vont passer au second plan. Là, pour l'instant, on est tous en train de s'offusquer en disant que c'est inadmissible. Et le corps arbitral se met dans une position de victime. Donc, en fait, ils vont bien, ils vont pas changer les choses. J'en suis, mais quasi certaine. Au contraire, ça va les renforcer en disant, mais regardez, mais nous, on dit rien et pourtant, on nous tombe dessus. Et c'est là que moi, ça m'inquiète parce que, franchement, sur le fond du sujet, le fond du sujet, il est ultra important à traiter. Mais avec ce qui s'est passé, eh ben, pour moi, on va encore reculer et on va encore prendre du retard.
Ah, carrément.
Ah ouais, moi, je pense qu'on va encore
prendre
du retard.
C'est-à-dire que cet épisode ne fera pas du tout avancer les choses.
Non, je pense que ça ne fera pas avancer les choses tout de suite. C'est-à-dire qu'on va encore prendre du retard. Quand il ne se passe rien, et vous êtes nombreux, je les écoute toutes les émissions de foot sur RMC, ce fameux corps arbitral, le fait de prendre de la distance, de se dire, ah ben non, mais on communique, on vous envoie un communiqué. Ils déshumanisent leur fonction, alors qu'aujourd'hui, on est en train de dire qu'un arbitre, avant tout, c'est un humain. Donc, qui dit un humain? Eh ben, il y a des émotions, il peut y avoir des ajustements. Eux, eh ben, en fait, ils déshumanisent complètement leur position.
J'arrive, Pascal, tout de suite. Oui. C'est juste pour bien comprendre. C'est-à-dire que tu nous dis, dans cette affaire, les arbitres sont les victimes, donc ils se mettent en position de victime,
oui.
Alors que toi, tu dis, ils sont coupables.
Mais c'est pas qu'ils sont coupables, c'est que
de cette situation.
La problématique, elle traîne depuis un moment. Elle a pas bougé et elle bouge pas. Pascal, le premier à mettre le doigt dessus chaque week-end en disant on attend des choses.
Si on tombe dessus à chaque fois, bien sûr que tu vas te mettre en position de victime parce qu'à chaque fois on tombe dessus. En fait, qu'ils soient bons ou qu'ils soient mauvais,
ils
sont mauvais.
Mais ils ne prennent aucune résolution pour essayer de changer leur position.
Mais tu sais pourquoi? Parce qu'encore une fois, ils sont obligés de se protéger à un moment. Si à chaque fois que tu fais quelque chose, on tombe dessus une équipe, l'autre, les deux, on te tombe dessus à chaque fois. Donc à un moment, tu te mets en recul, tu te mets en repli sur toi-même. Moi, j'espère que c'est un point de départ. Pour moi, c'est pas un électrochoc, c'est un point de départ. Maintenant, il faut travailler, il faut avoir cette tolérance zéro, je suis complètement d'accord. Et à partir du moment où il y aura la tolérance zéro, que les arbitres commencent à parler, que les arbitres commencent à exprimer ce qu'ils ont, je suis d'accord. Mais à cet instant, c'est impossible. Être arbitre, c'est un calvaire. Et c'est des vocations qu'on est en train de perdre, surtout. Et il faut travailler depuis le début. C'est un problème d'éducation chez les jeunes, déjà. Les joueurs, les coachs, rouspète après l'arbitre, voir l'insulte, voir le menace. Il faut commencer depuis la base.
Je pense que tu exagères, Fred. Être arbitre aujourd'hui professionnel, c'est pas un calvaire. Ils gagnent superbement bien leur vie. Ils ont des conditions exceptionnelles. Revenir sur deux points. Le premier, si vous avez lu ce qu'a dit un des arbitres, il s'appelle Jérémy Pignard. Il arbitre en Ligue 1. Mmh. C'est la première fois. Ça fait longtemps que je suis dans le foot. C'est la première fois que j'entends un arbitre me dire qu'on continuera à faire des erreurs. Tout d'un coup, il s'humanise.
Exactement.
Et en plus, il demande que les arbitres soient sonorisés. Il le demande dans cette interview.
Et le deuxième, tu m'as devancé, Christophe. Il est temps qu'ils soient sonorisés pour qu'enfin on comprenne leur ressenti et la décision qu'ils ont prise. Ça changera beaucoup de choses, même si cette décision, on la trouvera toujours contraire. Alors qu'ils l'ont commenté, qu'ils l'ont expliqué, ça désamorcera forcément les tensions qui peuvent exister et qui existeront toujours. Voilà, la communication des arbitres, c'est ce qu'on attend. Eh bien, qu'ils emboîtent le pas une bonne fois pour toutes. Qu'ils deviennent des acteurs à part entière à qui on peut poser des questions.
Et on devait faire. D'ailleurs, la sonorisation des arbitres était prévue.
Notamment pour cette année.
Mais malheureusement, vous connaissez l'état de nos finances dans le foot français. Ça n'a pas pu être possible. On espère que dans un avenir proche, ce sera le cas. D'ailleurs, à 11h30, on va continuer de parler de ce sujet. Mais à 11h30, on parlera du projet d'Arsène Wenger avec différentes lois du jeu. qui pourrait changer. Je vous demanderai si vous serez pour ou contre ces changements. On revient tout de suite pour l'affaire Longoria. On vous attend au 32-16, évidemment, chers auditeurs, pour continuer le sujet. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
9h32 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Dans une dizaine de minutes, le zapping des GG, on s'en fout pas, je vous donnerai des informations. Vous me direz si ça vous intéresse ou non, les GG, notamment Mondo Duplantis qui bat hier soir, encore une fois, le record du monde à la perche. 6 m27, on en parle dans une dizaine de minutes, évidemment, si ça vous intéresse, les EG. Mais restons un instant sur notre débat sur l'affaire Longoria. Est-ce qu'elle peut créer un électrochoc dans le foot français? C'était partagé dans le studio RMC. Nicolas nous appelle au 32-16. Bonjour Nicolas.
Oui, bonjour à tous.
Bonjour.
Tu en penses quoi? On t'écoute, cher Nicolas.
Alors, en fait, moi, je suis un arbitre amateur, donc j'arbitre des matchs, et ça se passe toujours assez bien, voire très bien, parce qu'en fait, je suis un ancien footeux. Et du coup, le vice que les joueurs, ils ont, je le connais. Et du coup, en fait, quand j'arbitre les matchs, dès qu'il y a des joueurs qui veulent, parce que le joueur, il cherche le vice constamment, il est toujours à la recherche de tricher, en fait, entre guillemets, et moi, je leur dis aux joueurs, arrête, je vois ce que tu fais, j'ai compris ton jeu, ça sert à rien, ça marche pas. Et du coup, le joueur, en fait, il lâche l'affaire. Il se concentre plus sur son jeu. Et je trouve que le problème aujourd'hui, les arbitres, ils n'ont pas cette expérience-là, ils n'ont pas ce vécu du terrain, et ils sont trop dans la directive, ils sont trop dans le règlement. Alors qu'en fait, le foot, il y a un côté où on doit sentir un peu ce qui se passe, sentir quand le joueur il veut tirer le maillot pour faire faute ou pour freiner, pour casser l'action. Et ça, je trouve que les arbitres, ils manquent beaucoup de cette expérience-là, et c'est ça qui font que des fois, ils font des erreurs alors qu'elles sont... n'importe quel footeux, quand il regarde le match à télé, il se dit non mais comment l'arbitre il peut pas comprendre ça. Et je pense que ça c'est un gros problème. Et après le deuxième problème c'est le règlement. À la base on est tous d'accord, il y a que le capitaine qui parle à l'arbitre. Alors pourquoi on tolère à chaque fois qu'il y a 10 joueurs qui se mettent autour de l'arbitre? Ça c'est pas possible. Il faut juste tout simplement faire respecter le règlement. Aujourd'hui il y a un laxisme sur ça. Ce que je disais au standard, je pense que ça va être très compliqué de revenir en arrière, de réapprendre, de refaire respecter cette loi. Mais normalement, on est censé tout simplement faire respecter la loi. Et s'il y a 10 joueurs qui tournent autour de l'arbitre, et ben on met 10 cartons, et puis c'est tout.
Moi, Nicolas,
à un moment donné, si le match doit s'arrêter parce qu'il n'y a plus de joueurs sur le terrain, parce qu'il y a eu trop de cartons, et ben on arrête le match. Et c'est terminé.
Déjà,
c'est
Sarah veut te répondre, Nicolas. Vas-y, Sarah.
Bonjour, Nicolas. Je trouve ton témoignage... absolument rempli de bon sens, en fait. Véritablement rempli de bon sens. Et j'avais même une question. Est-ce que, comme avec ton passé d'ancien joueur, donc tu vois un peu effectivement comment on peut jouer sur la règle. Est-ce que aussi tu arrives à anticiper des moments qui pourraient être des moments de friction et de tension parce que tu vois les actions arriver? Est-ce que le côté d'anticipation peut être aussi un atout pour un arbitre?
Oui, tu as été ancien joueur. Ça, on le ressent. Ça, en tant qu'ancien joueur amateur, hein, je suis un ancien joueur amateur, hein, pas professionnel, mais même en tant qu'amateur, et encore, j'ai envie de dire, des fois, c'est même plus dur, je pense, d'arbitrer un match amateur que professionnel, parce que c'est vraiment très, 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 au niveau des contacts et tout, des fois, c'est très compliqué, parce que le joueur, il maîtrise pas forcément son geste, ou peut-être moins bien qu'un joueur professionnel, mais oui, on le ressent, et des fois, ça m'est déjà arrivé, où il y a deux joueurs, ils se chauffaient entre eux, ça se voyait, ça mettait des petits coups, ça laissait traîner le pied, et à un moment, je leur disais, les gars, c'est soit vous arrêtez tout de suite, soit en fait je sanctionne. Et après, je vais pas attendre qu'il y en ait un qui fasse plus que l'autre. C'est je vais vous prendre tous les deux, je vais vous sanctionner tous les deux. Donc arrêtez tout de suite. Et après, ils se regardent entre eux, je leur dis bon, c'est bon les gars, arrêtez. Arrêtez de me prendre la tête et on continue à jouer. Et des fois, ça calme le jeu. Et bah, bon, il y en a, ils se calment pas. Et bah, quand ça se calme pas, on sanctionne.
Merci Nicolas pour ce témoignage. Juste reste avec nous parce que moi je suis assez surpris ce matin, ouais. Les GG, je dois vous le dire. Parce que je vous ai posé la question, est-ce que l'affaire Longoria peut créer un électrochoc dans le foot français? J'ai l'impression que vous renversez totalement le débat. C'est-à-dire que moi j'avais l'impression depuis le début de la saison, je suis pas sûr que ce soit qu'une impression, que la pression exercée par les dirigeants du foot sur l'arbitrage était constante. permanente. Non, on en a parlé plusieurs semaines. Et là, vous êtes en train de me dire, oui, mais il faudrait qu'ils communiquent mieux quand même, les arbitres.
Non, on l'entend. Pour que la pression se relâche.
Est-ce que vous pensez que les joueurs, que les entraîneurs vont arrêter de contester systématiquement l'arbitre après ce qui s'est passé?
Mais non, il faut une tolérance zéro. C'est ce qu'on disait depuis tout à l'heure. Il faut une tolérance zéro.
Vous parlez surtout des arbitres.
Non, là, je parle des joueurs. Une tolérance zéro par rapport aux joueurs, justement. Il y a des règles. Nicolas vient de l'expliquer. Il y a des règles. À partir de là, il faut respecter les règles. Si tu respectes pas les règles, tu dois être sanctionné.
Ça, ok, ça on le dit depuis le début. Mais est-ce que vous croyez vraiment que ça va changer quelque chose? Que depuis que Longoria a fait sa sortie, les arbitres sont corrompus? Est-ce que les joueurs vont dire,
c'est un épiphénomène. C'est un épiphénomène.
On va arrêter d'attaquer l'arbitre.
Tu reviens au naturel.
En fait, parce que là, la problématique, c'est les dirigeants ces derniers temps.
Oui, mais c'est le respect de l'arbitre qui est quand même en fond.
On est d'accord, mais la conséquence, effectivement, d'un non-respect des joueurs sur le terrain vis-à-vis de l'arbitre font sortir de leur gond les dirigeants. Bah,
prends la même question. Est-ce que les dirigeants vont arrêter de taper systématiquement sur
les dirigeants arrêteront de parler, qu'on n'entendra plus, c'est les arbitres. Pour l'instant, on n'entend que les dirigeants et on n'entend jamais les arbitres.
Okay. Donc, je l'ai expliqué tout à l'heure, tu auras une vraie prise de conscience et tu auras une baisse des attaques contre les arbitres lorsqu'ils seront tous sanctionnés de manière véritable, comme c'est le cas pour Monsieur Longoria, comme ça a été le cas pour Monsieur Benassia il y a quelques semaines, à force de leur taper sur les doigts et de leur faire rentrer la tête et de baisser la tête, au bout d'un moment, tu verras.
Avant,
je conduisais à 140, 150 km/h sur la route. À force de prendre des amendes, aujourd'hui, je respecte la limite.
Et bien,
ce sera la même chose.
Ça change quand même.
Il est dans sa tribune. Et alors,
il va pas pouvoir siéger au conseil d'administration de la ligue aussi.
Ça a été la crise toute la semaine, Sarah. Ils ne savaient pas comment communiquer.
Oui, mais
ils étaient au fond du trou.
Ils sont dans une accumulation de dirigeants. Et ils se sont ridiculisés, évidemment.
Mais ça change leur quotidien de dirigeant. Quand tu es président, tu ne peux pas aller dans l'air de jeu, tu ne peux plus aller dans les vestiaires, tu ne peux plus rien faire, tu ne peux plus assister aux réunions. Je suis désolé, ça change. Ça fait une partie de ton métier. Si toi, en tant que directrice d'une agence de RP, tu n'avais pas le droit de rentrer dans ton agence, tu n'avais pas le droit d'aller proposer et présenter tes arguments à tes employeurs, ça changerait ton métier. Si moi, en tant que journaliste, j'avais plus le droit de parler dans un micro, tu crois que ça ferait quoi? Ça ferait du bien.
Olivia,
mais je pourrais plus travailler.
Olivia, d'ailleurs, coupez le micro. Non, laissez-le, évidemment, c'est la liberté de parole. Non, mais moi, je comprends le côté, et je te lance là-dessus, Pascal, je comprends le côté sanction, punition,
mais qu'il y a
à répétition.
Il n'y a que ça que tout le monde...
C'est tellement
France,
dommage. Moi, je vous parle d'électrochoc. Est-ce qu'à un moment donné, quand on dit l'arbitre est corrompu, les dirigeants vont peut-être se dire, ok, on va trop loin.
Tu l'as entendu
en fait,
beaucoup, Jean-Christophe. Est-ce que tu l'as entendu beaucoup?
C'est la première fois qu'on entend ça, corrompu. Ah,
corruption, c'est la première fois qu'on entend.
Corruption, oui, ça veut pas dire la même chose en espagnol. En espagnol,
après...
ça veut dire, il est très gentil, en fait.
Voilà, c'est ça. Mais après, quand tu revois les images, tu t'aperçois qu'en fait, Stinat, entre parenthèses pour l'auditeur qui a parlé tout à l'heure,
Nicolas.
Jérémy Stinat, c'est un ancien professionnel, donc il connaît aussi le football.
Il y en a quelques-uns.
Donc il a arbitré en son âme et conscience, et les décisions qu'il a prises, elles ne sont pas fausses au bout du compte. Et moi, je voudrais juste ajouter, oui, je pense que si chacun fait un pas, la communication de la part des arbitres, et fatalement dans les prochaines semaines, un peu de mesure concernant les joueurs, les entraîneurs, quoique, et les présidents, eh bien, tout ceci va faire en sorte qu'il va y avoir un élan qui va peut-être permettre à une meilleure compréhension des uns et des autres. Ce que je voudrais dire, je suis pas certain que le président Longoria a fait du bien son leadership à l'intérieur même de son club. Je suis pas certain que tous les joueurs soient d'accord avec lui. Vraiment pas certain. Voilà, c'est un ressenti. Peut-être que ce ressenti est complètement faux, mais je pense pas que ça serve sa cause, y compris à l'intérieur de son club, d'avoir balancé des trucs aussi énormes que le mot corruption.
En tout cas, je vous propose d'écouter, parce que tu en parlais, Christophe, il y a quelques instants, des Marseillais. Et en tout cas, Pablo Longoria a été soutenu toute la semaine par son entraîneur, d'ailleurs direct après le match, par Fabrizio Ravanelli. Hier, Roberto De Zerbi était en conférence de presse. Il a joué tout de même, évidemment, et pas trop le choix, à l'apaisement.
Nous avons un objectif très important qui est de ramener l'OM en Ligue des Champions. Rien ne doit changer sur cet objectif. Ce n'est pas le moment de parler ou de penser. Les arbitres ont fait un communiqué. Moi, j'ai dit ce que je pensais. Après, chacun parle avec sa bouche et son cerveau.
Voilà, il reste sur ses positions. Hein. Il a dit ce qu'il en pensait après le match face à Auxerre, mais voilà, il a décidé de plus trop en parler.
Alors, le problème, c'est qu'il est parfois plus facile de critiquer l'arbitre que de critiquer son jeu ou ses joueurs. Et c'est vrai que c'est malheureusement tombé dans la normalité. C'est-à-dire que quand on ne sait pas comment expliquer une défaite, quand on est énervé par rapport à ce qui s'est passé sur le terrain, c'est soit on critique ses joueurs, ce qui arrive, ou son entraîneur, soit on critique l'arbitre. Sauf que la vraie problématique, elle est là. Pourquoi on critique les arbitres? Parce qu'il y a une telle pression qu'à un moment, tu as besoin de chercher un bouc émissaire, et que le bouc émissaire le plus facile à trouver, eh ben, c'est souvent l'arbitre. Et c'est
ça qui me dérange.
C'est pour ça que moi, ça ne me suffit pas. Pour moi, ce n'est pas un électrochoc, c'est un début, j'espère.
Alors pourquoi on critique les entraîneurs? Pourquoi on critique les présidents? Pourquoi on critique le président de la LFP? Et pourquoi on critiquerait pas les arbitres? À condition qu'il y ait de la mesure. La critique, elle permet d'avancer. À condition qu'il y ait un retour de l'arbitre. Moi, je dis...
Pascal, les arbitres, c'est tous les week-ends qui sont... Alors, je veux bien qu'ils soient mauvais, les arbitres.
Mais à un moment,
c'est tous les week-ends qu'il y a un problème.
Mais quand t'es joueur ou entraîneur, c'est pas tous les week-ends.
Mais c'est toutes les minutes. C'est pas tous les week-ends, c'est pas toutes les minutes, c'est faux.
Je parle d'un domaine que je connais bien quand même.
Mais même si ça fait quelques mois que je ne suis pas,
je te promets que c'est toutes les minutes, tu m'entends? Pourquoi tu crois que j'ai plus de réseau social? J'ai plus de réseau social parce que me faire insulter toutes les minutes, au bout d'un moment, ça suffit. Parce que ça fait du mal à ma famille. Comme ça fait du mal à monsieur Stinat, que je comprends très bien et que je soutiens. Parce que pour une fois, enfin, je l'ai entendu, je l'ai lu. Oui, les arbitres, ils se font défoncer sur les réseaux sociaux aussi. Et ça, c'est pas normal.
Les arbitres ne gagnent jamais. À chaque fois, il y a au moins une des deux équipes qui est pas contente.
C'est vrai, mais Pascal nous éclaire sur un truc important. C'est-à-dire que si on considère l'arbitre comme un acteur du jeu.
C'est un acteur.
Non, mais si on considère, et tu as raison, c'est un acteur du jeu, c'est vrai que les joueurs peuvent être moqués, peuvent être critiqués, les entraîneurs en plein la tronche, les dirigeants, en ce moment, nos dirigeants français, c'est facile,
de trouver des solutions.
Ils donnent un petit peu le bâton pour, voilà. Mais tu as raison sur, c'est vrai que les entraîneurs, et on peut le voir comme
c'est pas la même qualité, le même genre d'insulte. Un entraîneur, on va dire que c'est un tocard, qu'il est pas bon. Un arbitre, on va l'accuser d'être un vendu, d'être un corrompu. Bien sûr qu'on peut les graduer, Sarah. Non, mais c'est pas du tout la même chose. Quand on dit, bon, toi, t'es pas terrible, t'es pas un bon joueur. Dit que t'es un voyou, que t'es un tricheur et que t'as essayé d'arnaquer une équipe, je suis désolé, c'est plus grave.
Pascal, le mot de la fin.
Tu penses que les critiques qui sont adressées aux entraîneurs ou aux joueurs ou aux acteurs du foot, elles sont moins puissantes que celles que tu dénonces? Quand on dit de toi, par exemple, que t'es un feignant, alors que tu es entraîneur, tu te lèves tous les matins, tu dors jamais, tu réponds même pas à ton épouse quand tu es à table tellement t'es dans la machine à laver tout au long de la saison, quand tu te prends que t'es un inculte, quand tu te prends que t'es une crasse, tu crois que ça fait du bien, ça?
Mais ça arrivera toujours, et c'est pas objectif. Mais ce que je veux dire, c'est que quand un arbitre, l'avantage, et parfois quand tu gagnes, quand l'équipe joue bien, au moins que les gens ne t'attaquent pas. Sauf que l'arbitre, quoi qu'il arrive, dans n'importe quel match, il sera critiqué. Parce qu'il aura fait
Dans certains matchs, il y a des arbitres qui sont félicités.
Ça arrive souvent, ça?
Ça arrive. Il y a des mecs qui réalise des matchs sans la moindre erreur, ça arrive.
L'entraîneur de l'équipe nationale française de football, quand il gagne la Coupe du Monde en Russie, dès le lendemain, il y a des critiques. Pourtant, il a gagné la Coupe du Monde avec son équipe. Deux jours après, vous m'entendez? Tu crois que c'est supportable, ça?
Pourtant, il a gagné assez de sous pour être critiqué, je te le dis, Pascal.
Eh ben, les arbitres gagnent très bien leur vie aussi.
Oui, un peu moins que les autres.
Voilà, tant mieux.
Mais très bien,
parce que vu comme vous êtes feignant, quand même, gagner autant, c'est quand même,
ok, je reprends la main. Merci, Nicolas, d'avoir composé le 32-16. pouvez déjà revivre ce débat en podcast. Il est 9h45, on va se retrouver dans quelques instants pour le on s'en fout pas, juste pour vous dire qu'en mars, le foot français joue gros sur RMC. Vous assisterez à tous les chocs de haut de tableau en Ligue 1, PSG Lille, Monaco Nice, Paris Saint-Germain Marseille, les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, de Lille, du Paris Saint-Germain la semaine prochaine, la Ligue des Nations avec le quart de finale France-Croatie, le retour d'Mbappé en équipe de France, bref, un mois de mars de folie et ce sera à vivre sur RMC. Allez, on se retrouve dans quelques instants avec le record du monde de Mondo Duplantis.
Venez voir.
RMC jusqu'à midi.
C'est bien, c'est propre dans les interventions.
Les grandes gueules du sport.
Sur les duels comme là-bas, faut être un peu plus costaud quand même, vous tombez facilement. Venez me voir.
Mais j'ai touché là-bas.
Je passe le message pour votre équipe. Ouais. Je suis d'accord avec vous qui glisse. Ça, il n'y a pas de souci. C'est pas lui qui le fait tomber, par contre, derrière, il lui met le coup. C'est pour ça que je siffle.
Jean-Christophe Drouet.
9h48 de retour dans les grandes gueules du sport. On parlait d'arbitrage il y a quelques instants. Je le disais, vous pouvez revivre ce débat passionnant sur rmcsport.fr, sur toutes les applications de podcast. Toujours avec Christophe Cessieux, avec Pascal Duprat, Sarah Pitkowski, Fred Beys. À partir de 10h, on ouvre le dossier. Le débat 15 de France, Fabien Galthié, doit-il changer une équipe qui gagne à une semaine d'affronter l'Irlande? Et vous allez voir, c'est quasiment inédit. Pascal Duprat et Christophe Cessieux seront dans la même équipe. À quel moment vont-ils quand même se déchirer, se désolidariser? Ça arrivera forcément. Restez bien avec nous. C'est à partir de 10h. Un point sur notre direct en cours. C'est du ski alpin, le slalom géant à Kranjska-Gora avec Léna Marjac. Salut Léna.
Salut JC. Salut à tous. Et aujourd'hui à Kranjska-Gora, les conditions sont un peu difficiles parce que ces derniers jours, il a plu, il a neigé. C'est une neige donc mouillée, neige salée. Et malheureusement aussi, il y a un peu de brouillard qui s'est installé sur une partie de la piste sur la fin de parcours au moment du passage de notre premier Français, Thibaut Favreau, mais il a quand même réussi à très bien s'en sortir puisqu'il accuse 8 dixièmes de retard sur le Norvégien Henrik Kristoffersen qui est en tête de cette première manche. Thibaut Favreau est donc quatrième provisoire de cette première manche ici à Kranjska-Gora et on suivra 6 autres Français, Léo Anguenaud avec son dossard 19 derrière Alban Elesi Canaferina, Flavio Vital, Léo Van Parent, Guerlain Favre et Mathieu Fèvre avec le dossard 62. On espère que les conditions ne vont pas trop se dégrader, surtout la neige, d'ici la fin de cette première manche à Kranjska-Gora.
Merci beaucoup Léna. Allez, tout de suite, on s'en fout pas.
RMC, le zapping des grandes gueules du sport.
Des informations à vous donner, l'actualité de la semaine de ces dernières heures. À vous de me dire si ça vous intéresse ou non. Si tout le monde s'en fout, on zappe l'information. La première information à vous donner, c'est Mondo Duplantis qui bat le record du monde à la perche une nouvelle fois. On s'en fout pas, bah Christophe.
On s'en fout pas,
okay,
du tout.
On prend. Pascal Duprat.
On s'en fout pas.
Sarah Pitkowski. Sarah,
je m'en fous.
Non.
Si.
C'est fou.
Mais
ça.
Comme j'ai pas le droit de parler, je vous dis.
Elle a
pas
jamais été très très forte à l'école, au saut.
On s'en fout pas. Alors le champion olympique de saut à la perche, Mondo Duplantis, vient de battre hier soir pour la 11e fois le record du monde en franchissant une barre à 6m27. C'était à l'occasion du All-Star Perche, hein, cette compétition organisée par Renaud Lavillenie à Clermont. C'est la deuxième.
Lui aussi, hein, battu un record.
5m91.
Oui, il a le record du monde des vétérans. Des plus de 35 ans.
Des plus de 35 ans, exactement.
Et oui.
C'est la deuxième fois d'ailleurs que Mondo Duplantis fait progresser sa marque dans cette compétition organisée à Clermont-Ferrand. Son précédent record datait d'il y a 6 mois. Il avait battu en Ligue de Diamant en Pologne, 6m26. C'était
donc,
le 25
août dernier. Donc, tu peux annoncer son prochain record.
Ce sera à 6m28 dans les 3 mois qui viennent.
Donc, on sait quand est-ce qu'il va
battre son prochain record. Tu parles beaucoup pour quelqu'un qui s'en fout.
Merci. Camembert, hein.
Oui. Christophe.
Ouais, non, mais moi, je trouve ça génial. Ce garçon est incroyable. En plus, il fait ça à Clermont, dans la salle de son pote Lavillenie. donc, je trouve ça vachement bien. Après, c'est une véritable manne financière, ce record du monde de saut à la perche. C'est-à-dire qu'il le bat 2 cm en cm. À chaque centimètre battu, c'est entre 30 000 et 100 000 dollars pour le record. Donc, voilà, il en a déjà battu combien, tu as dit 11. Donc, ça fait déjà pas mal de.
1160, on est à 1 million.
Mais bon, on va pas lui en tenir rigueur parce que son prédécesseur, Sergei Bubka, avait lancé le truc. Il était parti de 5m83 et il était allé jusqu'à 6m et quelques. Il avait gagné 6m10.
Bubka, il est allé jusqu'à 6m14.
Bon, ok, ouais. J'ai dû me tromper dans les chiffres. Donc il a amélioré de 30 cm et c'est chaque fois d'un centimètre. Donc voilà, c'est la bonne méthode. C'est plus difficile à faire sur un 100 m ou un 200 m, évidemment, parce que là tu peux pas calculer au millimètre près. Mais là, bah il a trouvé le truc pour s'enrichir.
Ouais, okay. On n'a pas envie de le voir à 6m40, à 6m je sais pas combien. Parce qu'à un moment, honnêtement, moi, quand je pense à Boubka, bah, ça me fait pas rêver, en fait. Ça me fait penser à chaque fois, ok, il va gagner, il va encore battre le record du monde d'un centimètre, il va prendre un chèque et il va attendre la prochaine fois pour le rebattre. Donc moi, ça me saoule, ça m'a fatigué. Boubka, ça m'a pas plu et je rêverais de le voir, de pouvoir les voir vraiment tenter le maximum, de savoir jusqu'où il peut aller.
Parce que le problème de 6m40, ouais, bah, il sera peut-être trop vieux pour pouvoir l'atteindre. Alors qu'aujourd'hui, il les a peut-être dans les jambes.
Exactement.
Je vais en proposer un débat demain, parce que je trouve ça passionnant comme débat. On n'a pas trop le temps là.
Est-ce qu'il doit. C'est-à-dire que s'il le bat de 40, autant le laisser faire. S'il bat de 40 cm, bah, tu lui fais 400 000, ouais, là, 400 millions de dollars.
Là, c'est intéressant. Okay. Là, c'est intéressant.
J'aimerais pas être ton banquier quand même. Deuxième information dans le zapping des GG à vous donner, c'est le CIO qui réfléchit à réintégrer les athlètes russes et biélorusses. On s'en fout pas, Christophe Cessieux.
On ne peut pas s'en foutre.
Ok.
Oui, on s'en fout pas, non.
Ok, Fred. On s'en fout pas, Pascal.
Je m'en fous pas, mais je vais laisser Christophe, parce qu'il va y aller.
Alors, mi-mars, le CIO va se rassembler en Grèce avec au programme l'élection du futur président du CIO. Mais une autre question sera aussi au centre des discussions, c'est l'avenir des athlètes russes et biélorusses, je le disais, dans les compétitions internationales. Et pour les Jeux Olympiques, une échéance qui arrive vite d'hiver en 2026, on va retrouver notre journaliste RMC Sport, Maria Azé. Bonjour Maria.
Salut à tous.
Bonjour. 3 ans après leur éviction, ils pourraient donc, je le disais, bientôt faire leur retour.
Oui, depuis le début du conflit, les Russes et Biélorusses ne peuvent pas participer aux compétitions internationales ou alors que sous des conditions strictes, sous bannière neutre et ne pas avoir eu de lien avec la guerre. Alors il y avait 15 Russes et 17 Biélorusses aux Jeux de Paris, mais la Russie voudrait le retour de toute sa délégation pour les Jeux de Milan-Cortina 2026. Les deux candidats à la présidence, enfin deux des candidats à la présidence sont favorables au retour, dont le français David Lapartient. Ce qui bloque, c'est plutôt du côté des fédérations internationales et de quelques pays sensibles au conflit. Dans plusieurs pays moins sensibles, d'ailleurs en Afrique notamment, on ne comprend pas vraiment pourquoi les Russes ne sont pas réintégrés. Alors, est-ce qu'on verra les Russes et les Biélorusses pour Milan-Cortina l'année prochaine? Selon nos informations, c'est très peu probable car les compétitions qualificatives arrivent. Les règles, elles ne vont pas être changées si rapidement. Plusieurs fédérations internationales se sont déjà positionnées. Pour le hockey sur glace, c'est non. Pour le patinage, c'est oui. Au final, c'est le CIO qui tranchera. Mais le comité tend à une ouverture quand même et ne veut pas pénaliser toute une génération d'athlètes à vie. Ce sera l'un des sujets majeurs du comité qui se réunira dans 15 jours. À noter que c'est la première fois que les Russes et les Ukrainiens sont présents en même temps, en présentiel, depuis le début de la guerre.
Merci beaucoup Maria pour ces précisions. Sarah.
C'est très délicat de prendre une position. En effet, ce que disait Maria, c'est que le conflit, il a une résonance qui est totalement différente, qu'on soit sur un continent ou sur un autre. Je trouve que, enfin, il me semble, de mon point de vue, que la Fédération internationale du sport concerné est peut-être la plus à même de juger s'il faut réintégrer les Russes et les Biélorusses, parce que effectivement, ça dépend du sport, ça dépend de la représentativité des sportifs de ces nationalités dans un sport plutôt qu'un autre. Donc, laisser la main aux fédérations internationales me semble le plus. Ah, je ne sais pas si on peut dire le plus juste, je ne sais pas si
c'est
le terme est bon.
C'est le meilleur moment, c'est le meilleur moyen pour avoir de l'ambiguïté. Si chacun doit décider
oui,
pour sa paroisse,
mais
ça paraît
compliqué. Mais dans certaines disciplines, la Russie et la Biélorussie ont des niveaux qui sont différents et des fois ils sont totalement anecdotiques.
Mais on s'en moque de ça.
Mais oui,
c'est une position politique en disant ils n'ont pas accès à nos compétitions. On ne va pas dire, ah bah attends, au bowling ils sont pas mal, bah attends, on va les intégrer, attends là. Ils sont moins bien, on va pas les.
Mais parce que en fait, je me place du côté du sacrifice d'une génération ou de générations entières de certains sportifs.
Voilà.
Et
le sacrifice des athlètes ukrainiens qui vont finir la guerre avec une jambe, avec des bras en moins. Tu tiens compte de ce sacrifice?
Je pourrais te dire, t'as raison. Biélorussie et Russie, tant que le conflit est pas terminé, oui, ils seront jamais. Mais dans les faits, c'est pas le cas, puisqu'ils ont le droit de se présenter aux Jeux sous bannière neutre. Ils ont le droit ils ont montré qu'ils ne soutenaient pas le
gouvernement en place.
La Russie ou le gouvernement en place. Vous pouvez y participer.
Donald va nous résoudre la solution. Il va nous obliger à prendre tous les Russes et les Biélorusses et le CIO ferme sa gueule, comme d'habitude.
Ça, c'est pas impossible. C'est une bonne conclusion. Merci beaucoup, surtout après ce qui s'est passé hier dans le bureau ovale entre le président Zelensky et donc le président Trump. Rien à voir avec la choucroute. Merci, Maria Azé, d'être venue nous apporter cet éclaircissement. C'est le moment de vous inscrire à l'expérience RMC. pour gagner vos places, c'est maintenant pour Paris Saint-Germain Liverpool, c'est mercredi prochain à 21h. Vous avez 5 minutes à partir de maintenant pour envoyer PSG au 7-32-16. PSG au 7-32-16. Bonne chance à tous, ça n'arrive pas qu'aux autres. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules.
Ça m'arrive jamais, hein.
Le bras de fer des GG. Le 15 de France qui va jouer l'Irlande dans une semaine. Fabien Galthié, doit-il changer une équipe qui gagne? GG ne sont pas d'accord. À tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi. Les grandes gueules du sport.